Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Vous êtes tous initiés, connaisseurs de la parole de Dieu, et ce n'est pas évident que de vous apporter une étude biblique, mais je vais continuer de le faire dans le même esprit en étant attaché au texte, serviteur de la parole, et je demande que l'Esprit Saint nous assiste les uns et les autres dans cette lecture commune de la parole de Dieu. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier que nous avons montré quelle était l'atmosphère générale de cette deuxième épître de Paul à Timothée. Et l'apôtre Paul est en prison, il se sent terriblement seul, lâché par un certain nombre de ses amis, et il se souvient de cette amitié précieuse qui le lie à Timothée. Il souhaite de tout cœur que Timothée le rejoigne, et nous avons là l'atmosphère de quelqu'un qui sait qu'il est à la veille de son départ, et qui va transmettre des paroles qui lui tiennent particulièrement à cœur. On peut parler d'un véritable testament spirituel. Et c'est dans cette atmosphère-là que Paul exhorte Timothée à transmettre le message de l'Évangile d'une génération à l'autre, à le faire coûte que coûte, étant prêt à payer le prix, à souffrir s'il le faut, aller jusqu'à la mort, comme Paul lui-même est prêt à le faire, par attachement à celui qui est mort et qui est ressuscité. Ce matin, nous allons poursuivre l'étude de cette deuxième épître de Paul à Timothée. Nous prendrons la lecture à partir du chapitre 3. Ici, l'apôtre Paul souligne le fait que non seulement on peut être appelé à souffrir par fidélité au Seigneur, qu'il faut veiller pour lui rester fidèlement attaché, mais il souligne qu'il faut lutter chaque jour pour que la parole de Dieu ne soit pas vidée de son contenu, ni détournée de son sens et de son but. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir montré quelles pouvaient être les souffrances auxquelles Timothée pouvait être appelé par fidélité au Seigneur, il souligne ici son devoir particulier, celui de prédicateur de la parole. Prêche la parole. J'aimerais demander à Matthias Radloff de lire les 9 premiers versets de ce chapitre 3.
Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.
Timothée ne doit pas se faire d'illusions ou s'imaginer que l'opposition à la vérité prendra fin, qu'il suffit d'attendre et que la tempête passera. Au contraire, il doit savoir que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Quant à Timothée, il pourra garder confiance, parce que justement l'insurrection du mal dans les derniers temps est prévue, a été annoncée, C'est bien la méthode que Jésus emploie auprès de ses disciples. Il leur annonce des persécutions et aussitôt il ajoute « Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit ». Le Seigneur ne cache pas les difficultés qui nous attendent. Au contraire, nous devons nous y préparer et lorsqu'elles se présenteront, ne pas être étonnés et trouver en Christ la force de les vivre. Les derniers jours, vous le savez bien, ce sont ces temps qui ont été inaugurés avec l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et qui se prolongent jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est donc toute la période de l'Église. Et conformément à la tradition apocalyptique, les derniers jours nous sont présentés ici comme des jours difficiles. Ce mot « difficile » mérite notre attention, parce qu'il signifie à la fois supporter quelque chose qui est difficile à vivre, comme par exemple la souffrance en cas de maladie, les difficultés morales, mais aussi, d'autre part, les dangers, la menace. Dans le grec classique, on utilisait ce mot pour parler des animaux sauvages et de la mer rugissante. Il y a donc dans ces difficultés des derniers jours ce double aspect de temps difficile à vivre, pénible, mais en même temps de temps dangereux et menaçant pour la foi. Au dernier jour, nous dit Paul, la corruption gagnera toute l'humanité. Nous avons là une liste impressionnante des vices qui caractérisent les hommes des derniers temps. Et il est bien sûr difficile de trouver dans cette énumération un ordre très logique, mais on peut remarquer ceci, que 4 des 19 expressions employées sont des mots composés avec le mot « amour », ce qui suggère que fondamentalement, ce qui fait problème, c'est la fausse orientation de leur amour. Regardez de plus près, la série s'ouvre par la suffisance de l'homme qui préfère l'amour de soi à l'amour de Dieu. L'amour de soi a été traduit en général par égoïsme, mais c'est un mot composé, philautoi, l'amour de soi-même. Donc, la cause profonde de tous les péchés est bien le refus de l'homme d'accepter sa condition de créature pour être lui-même sa propre norme. L'amour de soi est à l'origine de tous les vices. Et l'amour de l'argent, qui est cité aussitôt après, lui est naturellement associé. Et puis on retrouve encore deux fois cette expression construite avec le mot « aimer », aimant, verset 4, aimant leur plaisir plus que Dieu. On pourrait traduire aussi « ami du plaisir » plus qu'ami de Dieu. Ami du plaisir, on trouve là le mot qui a donné hédonisme en français et qui caractérise effectivement notre temps. On est au service du plaisir et la recherche du plaisir. C'est l'amour du plaisir plutôt que l'amour de Dieu qui nous conduit. Et plus loin, au verset 5, l'énumération des vices se termine par un trait qui, aux yeux de l'auteur, aggrave singulièrement le cas des gens dont il vient d'être question. Non seulement ils ne reconnaissent pas leur culpabilité, mais ils se font passer pour des hommes de haute vertu, pour des hommes pieux. Je cite ici un auteur qui écrit « L'hypocrisie clôt dignement cette série. Elle couvre ce grouillement de vices, ce nœud de vipère, du manteau de la piété et de la religion ». Oui, l'opposition est forte ici entre l'apparence extérieure de la piété, la forme, et la réalité profonde, la puissance. Le comportement extérieur est sans valeur s'il n'est pas l'expression du dynamisme de l'esprit, du fruit de l'esprit. La tradition évangélique met en garde les fidèles contre les faux docteurs qui se présentent vêtus en brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups rapaces. Agir ainsi, c'est renier l'essence même de l'Évangile. Ils ont donc l'apparence de la piété, mais il s'agit de la forme sans la puissance, de la religion sans morale, de la foi sans œuvre. Et Paul dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. On ne discute pas avec eux. avec ceux qui pêchent contre l'esprit. On se détourne d'eux. Et le mot employé ici, qui est une fois de plus propre à cette épître à Timothée, il ne s'agit pas seulement dans ce mot ou dans ce que Paul veut dire d'éviter de rencontrer ces gens, il faut les fuir, dit-il, les fuir comme des bêtes sauvages ou des maladies contagieuses. Les versets 6 et 7 sont plus concrets et nous donnent d'intéressantes précisions sur la façon dont s'y prennent les propagateurs de nouveautés hétérodoxes. Familiers de l'hypocrisie, ils agissent de manière détournée. Ils s'insinuent dans les maisons, échappant à tout contrôle officiel et pouvant plus facilement endoctriner les femmes en l'absence de leurs maris et des responsables de l'Église. Ici, Paul emploie l'expression « femmelette », un diminutif qui a à coup sûr un sens péjoratif. Et il veut souligner par cette expression la fragilité intellectuelle et morale des auditrices qui sont des proies faciles pour les faux docteurs. Et ce qui rend ces femmes particulièrement vulnérables à la propagande hétérodoxe, c'est leur avidité pour toutes les nouveautés. Légères, inconstantes, dévorées de curiosité, elles sont incapables de réfléchir et de parvenir à la connaissance de la vérité. Je cite ici Herbert Roux, « La religiosité naturelle, la curiosité de l'esprit, voire la superstition et le goût du surnaturel n'ont jamais conduit à la foi. » C'est Herbert Roux. L'action des hérétiques est comparable à celle des deux magiciens d'Égypte qui s'efforcèrent d'ailleurs sans succès de contrecarrer l'œuvre de Moïse. Si la Bible ne connaît de façon générale que les magiciens du Pharaon, elle ne cite aucun nom. Par contre, le Targoum du pseudo-Jonathan nomme explicitement Jannès et Jambrès. Et un texte essénien déclare, je cite, « Dans les temps anciens parurent Moïse et Aaron sous l'action du prince des Lumières, mais Bélial suscita Jannès et son frère dans sa malignité. » L'histoire de Jannès et de Jambrès doit inviter les fidèles à la confiance, car, encore une fois, c'est en vain que les sorciers d'Égypte se sont opposés à Moïse. C'est en vain qu'ils ont tenté de séduire les Israélites. Et les docteurs éphésiens peuvent bien obtenir certains succès, ils seront finalement disqualifiés et démasqués. Leur folie, c'est bien le mot employé par Paul, deviendra manifeste, ils n'auront plus de crédit. Je propose maintenant la lecture des versets 10 à 15, tenir ferme dans la foi.
Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus.
Merci bien. Remarquez que dans ce passage, Paul s'adresse à deux reprises à Timothée en l'interpellant par ces deux mots monosyllabiques « mais toi ». Sudé en grec, et cela vous le remarquez au verset 10, au verset 14. En contraste avec l'attitude générale ambiante décrite dans les versets précédents, Timothée, lui, doit se distinguer. Il doit être différent. Ne vous conformez pas au monde présent, dit l'apôtre Paul. Il s'agit d'oser aller à contre-courant. Et Paul commence par rappeler à Timothée quelle fut sa conduite passée, faite de loyauté à son égard, puis l'exhorte à faire de même dans le futur. D'abord, un regard dans le passé. Il n'est pas rare que Paul demande aux croyants de suivre son exemple, et il n'y a là aucune trace de vanité, car l'apôtre lui-même étant l'imitateur du Christ, c'est le Christ que les fidèles imitent en prenant modèle sur lui. Toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ce verbe suivre est important ici. Il a deux sens, plusieurs sens divers, mais je voudrais vous en montrer au moins deux. Il signifie comprendre une argumentation, en accepter la conclusion. Mais il signifie aussi, comme on pourrait dire, je te suis. Quelqu'un vous fait une démonstration, je te suis. Mais il signifie aussi se faire le disciple d'un maître. Et l'accent est mis ici sur ce second sens, sur la fidélité du disciple à l'égard de son maître. Et pour décrire justement la loyauté de Timothée à son égard, Paul mentionne 9 expressions différentes. Nous ne pouvons pas nous y arrêter longuement, mais il commence en tout premier lieu par mentionner l'enseignement. Timothée a suivi Paul dans son enseignement. Mais remarquez-le, la doctrine n'est pas un énoncé abstrait, c'est une force qui transforme la vie. Et il n'est pas étonnant qu'aussitôt après avoir mentionné l'enseignement, il mentionne le comportement de Timothée, sa conduite. Puis les projets, il est entré dans les projets de Paul. Il l'a suivi dans sa foi en Dieu. Il a fait preuve de patience, cette patience qui est indispensable si l'on veut persévérer, tenir ferme, faire face aux difficultés. Et puis, il l'a suivi dans l'amour, dans la charité, dans la constance. Et finalement, Paul mentionne les persécutions et la souffrance. Paul a enduré ses difficultés par amour du Seigneur, mais on le voit bien, Timothée l'a suivi dans ce chemin. Et on pourrait s'arrêter au livre des Actes pour voir ce que Paul a vécu à Antioche de Pisidie, au chapitre 13 des Actes, à Iconium, chapitre 14, à Lystre. Mais l'important pour Paul, c'est de dire ceci qui conclut cette énumération des épreuves. De toutes, le Seigneur m'a délivré. Il y a toujours cette note d'encouragement, de victoire. Le rappel des difficultés passées a surtout pour but de mettre en relief la toute-puissance du Seigneur intervenant pour sauver le juste persécuté. Et à partir de son cas personnel, au verset 12, Paul formule une loi générale applicable à tout chrétien. Il dit que qui veut vivre sa foi doit s'attendre à être persécuté. C'est un message qu'on doit dire et redire. C'est clair que la persécution peut prendre toutes sortes de formes, mais il est faux de prétendre que de suivre le Christ, c'est suivre une voie de bonheur. Naturellement, tout dépend ce que l'on met derrière ce mot, mais il faut s'attendre au contraire à des difficultés, et il faut le dire à ceux qui s'approchent du Seigneur. D'ailleurs, c'est un thème classique de la prédication évangélique, qui se trouve très bien résumé, par exemple, dans 1 Pierre 2, versets 20b et 21, que je lis. « Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Oui, on pourrait justement rappeler cet enseignement de Jésus qui a annoncé les persécutions et qui, dans Jean 16, verset 33, dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et au verset 13, Paul revient sur la polémique contre les hérétiques « Je ne m'y arrête pas. » Regard vers le passé, regard vers le futur, dans les versets 14 à 15. Contrairement donc au faux docteur, Timothée, lui, ne doit pas se laisser agiter, emporter à tout vent doctrine, car sa foi repose sur des bases inébranlables. Elle repose sur la tradition apostolique et sur l'Écriture. Ce qui est fortement souligné ici, je cite de nouveau Herbert Roux, c'est la mise sur le même plan que l'Écriture du témoignage apostolique lui-même, qui est maintenant achevé et qui doit, par le ministère de Timothée, être gardé comme également normatif pour la foi de l'Église. Oui, c'est d'abord à la tradition apostolique que Paul ici se réfère. L'important pour Timothée, c'est de demeurer dans ce qu'il a appris. Il n'est pas le maître du dépôt reçu, il en est seulement le gardien. Et à la différence des hérétiques, Timothée est l'héritier d'une tradition en laquelle s'enracine sa foi. Et pour ancrer le disciple plus fermement encore dans sa conviction, Paul lui demande de se rappeler quels furent ses maîtres. Ici, il est vrai, il y a deux lectures possibles, ou bien ce sont des maîtres au pluriel dont il est question, auxquels Paul fait allusion, ou bien au singulier. Mais il semble que le pluriel soit ici préférable, car Paul ne fut pas le seul à instruire Timothée. Des chrétiens de Lystre durent l'initier à la foi chrétienne et faire de lui un disciple. Et avant d'être chrétien, nous pouvons le rappeler, il a appris de sa mère et de sa grand-mère les premiers rudiments de la loi juive. Comme on le dit, à 5 ans, la Torah, à 10 ans, la Mishnah. C'est une sentence rabbinique qui montre bien cet enseignement qui était donné et dont a bénéficié Timothée dans cette ambiance juive. C'est depuis ton enfance, ta petite enfance, que Timothée connaît les saintes lettres, les hiéragrammata, hein, les saintes lettres, on peut traduire les écrits saints, et cette dernière expression ne se trouve pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais à coup sûr, Paul vise ici les saintes écritures, car justement, les lettres, il le précise, ce sont les saintes lettres. Et juste après, il est question de l'Écriture, au verset 16. Et cette expression, les saintes lettres, était couramment usitée dans le judaïsme hellénistique pour désigner les écrits de l'Ancien Testament. Donc, qu'on ait un article ou non ici, c'est bien de l'Écriture qu'il est question. Mais ce qui est remarquable pour nous, c'est que, alors que Pierre, effectivement, considère les lettres de Paul comme des écritures, ayant l'autorité des écritures, dans le contexte présent, il est question des saintes lettres avec lesquelles Timothée a été familiarisé dès le ventre de sa tendre enfance. C'est-à-dire, à une époque où aucun écrit apostolique n'avait encore vu le jour. Ainsi donc, l'apôtre reconnaît ici que l'Ancien Testament et l'enseignement reçu par sa mère et sa grand-mère a joué un rôle providentiel pour préparer les hommes au salut par la foi en Jésus-Christ. C'est en Christ que s'accomplissent les promesses de l'Ancien Testament, mais tout cet enseignement reçu l'a préparé. Nous lisons maintenant les versets 16 à 17 qui nous présentent l'origine et le but de l'Écriture.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne.
Si le genre général, le sens général du verset est assez clair, l'interprétation de plusieurs détails prête à discussion. Et là, vous avez au rétroprojecteur les quelques questions que je retiens. Comment comprendre cette expression « toute écriture »,« passagraphé » ? Doit-on considérer « théopneustos », qu'on a traduit « inspiré de Dieu », comme une épithète, et traduire « toute écriture inspirée de Dieu est utile », ou comme un attribut, c'est-à-dire traduire « toute écriture est inspirée de Dieu et utile ». Voyez la nuance. Cet adjectif théopneustos a-t-il le sens passif, c'est-à-dire inspiré de Dieu, ou le sens actif qui voudrait dire qui respire Dieu, qui véhicule un souffle de Dieu? il nous faut voir ces questions l'une après l'autre. Tout d'abord, l'utilisation de ce mot « graphé », traduit par écriture, désigne ici non des lettres profanes, mais des textes sacrés. C'est le sens habituel du mot dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, « graphé », c'est-à-dire « écriture », désigne parfois l'écriture en général. Par exemple, dans Romains 11, verset 2, « Ne savez-vous pas ce que dit l'écriture ?» C'est le même mot qu'on retrouve. Dans ces passages, le substantif est précédé de l'article. Mais en de nombreux autres cas, « graphé » désigne un passage particulier de l'écriture, un texte précis. « N'avez-vous pas lu ?» Cette écriture, on a traduit cette parole de l'écriture, mais le texte lit simplement « N'avez-vous pas lu cette écriture ?» Marc 12, verset 10. On pourrait citer d'autres exemples, je me limite. C'est bien le sens qui semble mieux convenir ici, puisque « graphé » est employé sans article. Encore que dans le grec de la koiné, les règles de l'emploi de l'article ne sont pas toujours strictement observées. Donc l'auteur veut probablement dire tout passage de l'écriture, quel qu'il soit. Voilà le sens qu'il nous semble devoir retenir. Maintenant, comment interpréter théopneustos, c'est-à-dire inspiré de Dieu. Vous avez théo, Dieu, pneustos, qui veut dire souffler ou de l'esprit de Dieu. C'est un axe biblique, ça veut dire c'est la seule fois qu'on trouve ce mot dans toute la Bible. Mais il se retrouve 4 fois dans la littérature pré-chrétienne. Et il a toujours été compris par les pères grecs comme par les latins au sens passif, c'est-à-dire inspiré de Dieu. Et les commentateurs modernes sont du même avis. L'affirmation est importante, car aux yeux de l'auteur, l'écriture, c'est-à-dire chaque passage de l'écriture, est inspiré de Dieu. Sans doute, et il faut le noter, ce n'est pas une doctrine nouvelle pour Timothée. La plupart des Juifs du 1er siècle admettaient l'inspiration divine des livres de l'Ancien Testament. Mais on voit par ce texte que les chrétiens ont fait leur cette doctrine juive et reconnu eux aussi, derrière le texte des Écritures, l'action divine à l'œuvre. Comme le dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1,21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes en parler de la part de Dieu. Mais ce mot théopneustos, est-il une épithète ou un attribut? C'est sur ce point que les commentateurs sont les plus partagés, encore que la question soit sans grande importance. Ceux qui voient une épithète estiment que l'affirmation de l'inspiration de l'Écriture n'a rien de nouveau pour Timothée. Et dans ce sens-là, ils ont raison. L'accent n'est pas tellement sur l'inspiration que sur l'utilité de l'écriture, et j'y reviendrai. Mais tout en étant d'accord avec ce dernier argument, il reste bien sûr de très bonnes raisons de traduire « toute écriture est inspirée de Dieu ». Et là, on pourrait mettre l'autre transparent qui donne les quelques arguments en faveur de cette traduction et compréhension. Tout d'abord, cette traduction rend mieux compte du texte grec. En l'absence de verbe, il est plus normal de construire de la même manière les deux adjectifs, théopneustos et puis utile, unis par cette conjonction kai, et. Deuxièmement, si l'adjectif théopneustos était une épithète, il devrait normalement être placé avant graphé. Placé après, il se présente comme un attribut. Et la traduction, toute écriture inspirée de Dieu, si c'était une épithète, on le traduirait de cette manière, toute écriture inspirée de Dieu, cette traduction-là est équivoque. Elle semble insinuer qu'il y ait des écritures qui ne sont pas inspirées, ce qui est hors de question dans ce contexte. L'affirmation de l'inspiration des écritures n'est pas une banalité, c'est parce qu'elle est inspirée de Dieu que toute l'écriture est utile. Et c'est bien là que l'auteur met l'accent. Nous nous sommes beaucoup battus, les évangéliques, pour défendre l'inspiration des écritures, et nous avons bien raison. Mais encore ce matin, parlant avec Mathias Radloff, nous avons pris conscience que, étant tellement préoccupés du sens de l'inspiration et de la portée de ce terme, nous n'avons peut-être pas suffisamment mis en évidence, et cela que j'aimerais souligner ce matin avec l'apôtre Paul, le but. Écriture inspirée, oui, mais écriture utile, utile. L'écriture est pour tout pasteur la base de son enseignement. Elle permet de reprendre les opposants, de réfuter les erreurs, de dénoncer les fautes morales. Elle peut ramener les égarés dans le droit chemin. Elle fournit les moyens d'une éducation positive dans la vraie justice, c'est-à-dire la sainteté véritable. Je voudrais redire les mêmes choses différemment avec Speak et je vous propose un transparent. C'est le prochain. Merci Mathias. Je reprends les termes mêmes de Speak et regardez bien ce tableau. En d'autres termes, écrit Speak, le prédicateur de l'Évangile emploiera les textes sacrés. 1. Dans son office d'enseignement, c'est-à-dire élaborer et organiser la doctrine chrétienne. C'est le statut de la théologie. Deuxièmement, pour engendrer la conviction, c'est-à-dire, avec cette nuance, de réfuter les erreurs. Troisièmement, pour l'amendement et le redressement, c'est-à-dire ramener les pécheurs dans la voie droite et les corriger de leurs vices. Et quatrièmement, pour l'éducation dans la justice, c'est-à-dire dans toute la conduite de la vie morale. Donc, si vous revoyez ce tableau, en résumé, l'écriture est utile pour la foi et pour la conduite, pour la doctrine et pour la morale. Remarquez, les deux domaines sont ici abordés. Et d'aborder tous les deux positivement et négativement. Vous avez cette construction, plus, moins, moins, plus. Cela apparaît, je crois, clairement sur ce tableau. L'homme de Dieu, dont il est question ici, et qui est qualifié par cette écriture, il peut désigner tout chrétien, c'est vrai, mais je pense que dans le contexte de cette épître, mais aussi de la première épître, il est certainement préférable de voir ici l'homme de Dieu, celui qui a, dans la communauté chrétienne, une charge particulière, notamment la charge de pasteur. Grâce à l'écriture, les hommes de Dieu sont parfaitement équipés pour l'accomplissement de leur tâche. Ces mots n'apparaissent pas au rétroprojecteur. Tu peux remettre le plan, s'il te plaît, Mathias. Parfaitement équipé, ou plutôt en premier, accompli, adapté, puis équipé. Ces mots me paraissent très importants. Il nous faut saisir que la parole de Dieu est pleinement suffisante pour préparer le serviteur au ministère qui est le sien. Et dans ce sens, le premier mot, traduit par la seconde révisée, par « adapté », mais qu'on peut aussi traduire par « accompli », qui est un apax du Nouveau Testament, signifie « qui s'emboîte bien, qui est bien ajusté, bien proportionné, propre à ». Il y a, c'est vrai, une nuance morale, mais plus que cela, il montre que par la parole, le serviteur de Dieu reçoit bien la bonne formation au ministère chrétien et souligne son adéquation, l'adéquation entre cette formation et le ministère. Il y a une adaptation entre la parole et le ministère auquel nous sommes appelés. Et le deuxième terme a été traduit par « préparer », mais ce verbe signifie « mettre en état, équiper un navire ». C'est donc cette parole qui nous prépare, qui nous équipe en vue de l'exercice du ministère. Connaissant bien les saintes écritures et les exposant dans ses instructions, le ministre de Dieu a tout ce qu'il faut, dispose de toutes les ressources nécessaires pour son œuvre excellente, entre toutes. Et cela nous amène à la partie suivante, qui me semble être le moment le plus fort de tout l'enseignement de Paul dans cette deuxième épître à Timothée, un passage qui est très solennel, et puisqu'ici, l'apôtre Paul va terminer ce qu'il a à dire à Timothée et qu'il va le faire sous forme d'une adjuration devant le Père et le Fils. Il prend donc à témoin les deux personnes divines de l'importance qu'il attache à ces dernières et ultimes recommandations. Nous comprenons bien, cette méthode de Paul correspond aux méthodes juives qui font appel aux témoins pour attester et autoriser une parole et un commandement. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous faut écouter ces versets 1 à 8 du chapitre 4.
Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprends, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition.
Merci bien. Après cette adjuration solennelle, vient l'admonition. Et dans les versets 2 à 5, vous voyez que cette admonition est menée au pas de charge. Tambour battant, les impératifs se suivent, sans autre glose que les compléments indispensables. Ce sont des verbes qui se suivent. Il y a là un sens de l'urgence et de l'importance de cette tâche. Et la première consigne concerne justement l'annonce de l'Évangile. Prêche la parole. Et nous trouvons là le verbe kérusso, proclamer comme un héros, comme un crieur public. Et c'est une injonction à dire la parole de Dieu, à la crier, à la communiquer. La responsabilité de Timothée ne se limite pas à l'écoute et à l'obéissance à la parole. Il ne lui suffit pas de la garder de toute falsification ou même de souffrir pour elle et vivre par elle. Il a la responsabilité de la prêcher publiquement, de l'annoncer aux autres. C'est donc une prédication urgente. Insiste en toute occasion. Timothée doit intervenir sans relâche. Il doit sans cesse être sur la brèche pour prêcher et pour accomplir sa mission. Il doit agir en temps et à contre-temps, c'est-à-dire continuellement, saisir toutes les occasions. Car, nous le comprenons, pour Paul, et rien n'a changé aujourd'hui, le temps presse. Et Paul lui-même a profité de toutes les occasions pour annoncer Jésus-Christ à tous les auditoires possibles, aux Juifs dans les synagogues, aux Grecs à l'Aréopage, aux pauvres à Corinthe, aux membres du Sanhédrin, aux magistrats romains. Même devant les tribunaux, c'est pour lui encore une occasion de dire l'Évangile, de prêcher la parole. À occasion favorable ou non, n'est pas facile à interpréter, mais il serait faux de penser qu'il s'agit là d'une invitation à agir à tort et à travers, à contre-temps. Non, il s'agit de saisir les occasions. Et c'est peut-être plutôt du point de vue du communicateur qu'il est dit favorable ou non, que ce soit facile pour nous ou non, que ça nous paraisse favorable ou non, quant à nous, il nous faut continuer de prêcher, comme Paul qui continue devant les tribunaux, plutôt que de défendre sa cause, d'être le porte-parole de l'Évangile. Comme on l'a vu hier, il est dans les liens, mais dit-il, la parole n'est pas liée. Là encore, il prêche, il annonce l'évangile. Mais c'est aussi une prédication appropriée. Remarquez les verbes utilisés. Il doit reprendre, menacer, exhorter. Et John Stott déduit qu'il y a pour le prédicateur au moins trois manières de s'acquitter de sa responsabilité. Hier, on a parlé d'une attitude appropriée, hier après-midi, dans la discussion de la table ronde où il était question de pasteur pour les pasteurs. Eh bien oui, il y a une manière appropriée d'apporter la prédication. Il y a trois approches, dit John Stott, intellectuelle, morale et émotionnelle. Certaines personnes, dit-il, sont tourmentées par des doutes et ont besoin d'arguments pour être convaincues. Première approche, convaincre. D'autres sont dans le péché et doivent être réprimandés. D'autres, finalement, ont été blessés et ont besoin d'encouragement. Une parole appropriée. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14, l'apôtre Paul exhorte les responsables de la communauté en montrant justement comme ils doivent approprier ce message à ceux à qui ils s'adressent, être sensibles à leur auditoire, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, usez de patience envers tous. Mais c'est aussi une prédication patiente. Si elle est urgente, il ne faut pas que cette urgence nous amène à vouloir faire des pressions psychologiques ou autres pour emporter la décision. Il nous faut faire preuve de patience, car le résultat et la responsabilité de ce résultat est entre les mains de Dieu. L'homme sème, l'homme arrose, c'est Dieu qui fait croître. Et nous ne devons jamais l'oublier. Et vouloir de nos propres forces anticiper ce résultat ou le provoquer, c'est provoquer des avortements. Et ce doit être aussi une prédication intelligente. Il ne nous appartient pas seulement de prêcher l'évangile, il faut encore l'enseigner. Vous reconnaissez là peut-être encore un des combats de John Stott. Et il rappelle que cette distinction qu'on a faite avec raison dans le livre des Actes entre le kérigme et la didaké, entre la prédication et l'enseignement, cette distinction, quoique utile, ne doit pas être poussée à l'extrême. Car le kérigme, cette prédication, doit contenir au moins une part d'enseignement, dit-il. Et John Stott insiste avec raison sur la nécessité de développer des ministères d'expositeurs de la parole. Expository Preaching Ministry. Vous m'avez compris. Je crois que c'est bien la ligne de ces textes que nous lisons, le message qui ressort de ces passages. Pourquoi cette urgence ? Je pourrais être ici relativement rapide. D'abord, cette urgence est liée à la venue du Christ et du jugement. Je reviens en arrière au chapitre 4, verset 1. C'est évoqué cette prédication, cette urgence de la prédication. Car nous devrons, dit Paul à Timothée, rendre compte de la mission qui nous a été confiée. Et l'évangile doit être annoncé à toute la terre en témoignage au Christ et pour toutes les nations avant qu'il revienne. Voilà une des raisons de cette urgence. Deuxième raison développée par Paul dans les versets 3 et suivants, c'est le monde contemporain, la scène contemporaine. Et ici, dans ce passage, c'est surtout la défaillance des chrétiens en matière de foi qui est évoquée. Le moment vient, nous dit Paul, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est-à-dire, ils ne l'accueilleront plus, ils n'auront plus de sympathie pour écouter cette saine doctrine. Au dernier jour, la saine doctrine deviendra pour beaucoup un fardeau trop lourd, aux exigences intolérables, préférant suivre la voie de la facilité, celle de leur convoitise. Ils chercheront des maîtres plus accommodants que les véritables apôtres. Les faux prophètes, nous est-il dit, pulluleront, leur nombre répondant à la curiosité des auditeurs. Et ceux-ci ont les oreilles qui démangent. Le mot démanger veut bien dire gratter, chatouiller. Et on peut le comprendre dans deux sens. Soit que l'oreille les démange d'apprendre, ou bien qu'ils souhaitent se faire chatouiller l'oreille par des doctrines nouvelles qui leur plaisent. Vous pouvez choisir votre interprétation. Les hommes avides de nouveautés se détourneront de la vérité. Voilà ce que Paul annonce. Mais toi, une fois de plus, mets-toi Timothée, tu es appelé à faire preuve de sobriété. Et je trouve ce mot très important. De sobriété. De sobriété doctrinale. Que le disciple s'en tienne au dépôt reçu. Qu'il s'abstienne de divagations fantaisistes. Qu'il ne se laisse pas prendre par toutes les nouveautés, mais qu'il reste sobrement attaché à la parole. Et finalement, fait l'œuvre d'un évangéliste. Je ne pense pas qu'ici ce mot évangéliste ait un sens technique qui désignerait quelqu'un qui a un ministère particulier pour amener les gens à la foi. Il désigne ici tout homme qui ont fonction d'annoncer l'évangile. Comme il est question aussi du service, où cela concerne tous ceux qui sont au service du Seigneur. Donc la scène contemporaine, voilà qui montre l'urgence. Et puis, il y a l'âge de l'apôtre. Voyez, il y a une opposition claire entre le verset 5 et verset 6. Dans le verset 5, il est dit, « Mets-toi, Timothée, remplis bien ton ministère. » Et Paul ajoute, « Car pour moi, le moment de mon départ. » Voyez, mais bien en contraste, « Toi, moi. » Et dans la perspective de son prochain martyr, Paul fait le bilan de son existence. Et il me semble qu'il y a dans ce bilan un dernier encouragement qu'il nous faut recevoir. Paul regarde en arrière, au présent, en arrière et au futur. Il y a là comme un mini discours d'adieu. Et dans le présent, il souligne qu'il va s'offrir en sacrifice. Paul est le seul auteur du Nouveau Testament à utiliser l'image de la libation pour parler de sa mort. Paul laisse entendre qu'à ses yeux, sa mort est une offrande sacrificielle. Et puis d'autre part, il parle de départ. Le départ ici est probablement une allusion au départ des navires, ou bien aussi aux soldats, aux voyageurs qui a replié sa tente en vue du départ. Voilà où il en est. Il est sur le point de partir. Et puis pour le passé, il emploie trois expressions dont les verbes sont au parfait et qui soulignent bien ce caractère de totalement accomplissement. Il arrive au bout, mais il est rempli de cette certitude qu'il a achevé ce qui devait être fait, et le sens de sa vie est plein. J'ai combattu le bon combat. C'est probablement ici l'image de l'athlète qui a poursuivi et qui va recevoir la couronne. J'ai achevé la course, qui montre bien une mission totalement accomplie. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi dans le sens que le dépôt qui lui a été confié eh bien, a été gardé fidèlement. Ou bien alors, on peut aussi de nouveau penser à la foi comme étant cette confiance, que le fait qu'il ait confié sa vie à Dieu, Dieu lui restituera avec la gloire, avec les honneurs qu'il lui a promis. Et finalement, c'est le futur. La couronne de justice m'est réservée. J'arrive au bout de l'étude même du texte. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous passer l'essentiel, mais quant à ce que j'avais comme fardeau, je voudrais simplement, en conclusion, reprendre trois points. Premièrement, ressouligner l'importance de l'encouragement mutuel pour accomplir la tâche qui nous est confiée. J'aimerais insister une fois encore sur l'importance de cette relation d'amitié. Vaudrait la peine de réfléchir plus longuement comment Paul, tout au cours de sa vie, a tenu à agir, non pas seul, mais en communion avec des frères, avec des sœurs, en équipe avec eux. Et voir comment Timothée a joué pour lui un rôle très important. Hier, on disait attention à cette dimension purement verticale. Au fond, nous n'avons besoin que de Dieu et tout ira bien. Oui, oui et non. Oui, mais Dieu aussi agissant au travers de nos frères et de nos sœurs. Et dans ce sens-là, il me semble important que l'on apprenne à développer des relations de vérité, d'authenticité. Pas forcément avec tout le monde, parce comme on l'a dit hier, on ne peut pas vivre la transparence avec n'importe où et n'importe quand. Ce serait se créer plus de problèmes que de trouver de l'aide. Et ce serait même créer des problèmes aux autres. Mais c'est vrai, certains d'entre nous ont cet avantage de travailler en équipe. Quand je dis avantage, il se pourrait qu'ils me disent aussitôt, oui, avantage, ce n'est pas évident de travailler en équipe. Pourtant, c'est vrai que c'est un avantage de ne pas être seul. Mais même pour ceux qui travaillent en équipe, il se peut que d'avoir une relation privilégiée avec quelqu'un qui est en dehors de cette équipe, qui n'est pas directement impliqué dans les problèmes, puisse nous être utile pour être vrai, pour dire ce que nous vivons, pour pouvoir nous décharger de nos fardeaux, pour pouvoir avoir un vis-à-vis avec qui on peut effectivement être transparent, un homme ou une femme de confiance. Et puis il faut penser à tous ceux qui œuvrent seuls. En tant que Suisses et Suisses romands, nous sommes bien sûr sensibles au fait qu'en France, le territoire est immense et que beaucoup d'entre vous doivent travailler seuls, loin de tout soutien, de tout appui. Pour eux, peut-être encore plus que pour les précédents, le besoin d'avoir un groupe de soutien, mais peut-être pas simplement un groupe officiellement imposé. Certaines églises pratiquent le parrainage, c'est mieux que rien. Mais une relation dans laquelle l'un et l'autre s'engagent, sont partie prenante. Cependant, j'aimerais ici plaider tout spécialement pour les jeunes qui entrent dans le ministère, au Timothée, si vous voulez. Nos écoles et nos églises ont souvent mis en place des possibilités de stage au cours desquelles ces jeunes bénéficient d'un accompagnement important. Mais à mon avis, c'est une erreur de limiter cet accompagnement à une ou deux années. Il faudrait développer pour eux une relation de coaching, je risque le mot avec l'ambiguïté de ce terme, mais qu'ils continuent de bénéficier d'une relation de conseil, de supervision, d'une relation qui soit une relation vécue dans un climat d'affection et de confiance. Le problème, c'est vrai, n'est pas que du côté des églises et des œuvres au service desquelles sont engagés ces nouveaux serviteurs de Dieu, mais la difficulté est liée à l'individualisme qui nous caractérise, à notre esprit d'indépendance. Et je voudrais militer pour cela et qu'on y travaille, qu'on y réfléchisse. Et croyez-moi, il n'y a pas que les jeunes qui y gagneraient, les aînés aussi. Regardez l'importance de Timothée pour Paul. Et combien d'aînés sont amers parce qu'ils n'ont plus de relation avec les générations montantes et ont l'impression que tout va à volo. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est s'encourager à persévérer dans la transmission de l'Évangile. Vous voyez, cette amitié, ce n'est pas une amitié qui tourne en rond. C'est une amitié qui doit être une source de renouvellement pour l'accomplissement de la mission qui nous est confiée. Il est nécessaire, certes, de se rappeler constamment que la fidélité à laquelle nous sommes appelés ne se limite pas à notre persévérance dans la foi et la saine doctrine, mais également dans l'accomplissement fidèle de la communication de l'Évangile d'une génération à l'autre. Certes, je me réjouis chaque année de prendre conscience tout à nouveau au Centre évangélique d'information et d'action de tout ce qui est entrepris dans ce sens. Et je crois qu'effectivement, qu'un des aspects positifs de ce centre est de pouvoir nous encourager les uns les autres dans l'accomplissement du ministère qui nous est confié et de développer des relations d'amitié, même si nous sommes de plus en plus menacés par l'esprit de concurrence. C'est vrai aussi. Il faut avouer que même si les moyens de communication ne cessent de se multiplier, cette transmission d'Évangile exige de nous tous beaucoup de persévérance, de courage, pour ne pas dire de souffrance. Encourageons-nous donc mutuellement à poursuivre envers et contre tout. Et dernier point, s'encourager à prêcher la parole. Il semble que la prédication de la parole est en perte de vitesse, que les études bibliques se font de plus en plus rares et leur fréquentation est en déclin. Et d'autre part, se multiplient les séminaires de toutes sortes, parmi lesquels ceux consacrés à la cure d'âme, notamment, ou à la relation d'aide, occupent une place de choix. Les sciences humaines, boudées pendant longtemps par les évangéliques, prennent leur revanche. Les pasteurs sont de plus en plus accaparés par les entretiens de relations d'aide et se spécialisent en son domaine. Ils n'échappent pas, et nous devons en prendre conscience, à la tendance dite de la professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils sont eux aussi à la recherche d'une nouvelle identité, recherche de compétences nouvelles et mieux reconnues dans notre société sécularisée. Les nouveaux pasteurs, les nouveaux clercs, on l'a dit, ce sont les psys. Et comme les pasteurs se sentent déclassés, il faut qu'ils aient de nouveau des compétences pertinentes à faire valoir. Pourquoi pas cette formation? Mais je crains que cette tendance soit au détriment de la formation biblique, de l'enseignement biblique dans nos églises. La responsabilité première et spécifique des pasteurs, ne faut-il le rappeler, c'est d'être des serviteurs de la parole. Dans le dernier numéro de la revue Certitude, a paru un article signé par Farid Gilani, intitulé « Du psychologisme par défaut de spiritualité ?» point d'interrogation. Et l'avènement, dans son numéro d'octobre, posait la question « Les pasteurs doivent-ils suivre une formation psy ?» Et répondait un pasteur, qui était favorable, mais répondait aussi un docteur, une femme, Florence Meyer, docteur en psychologie, qui répondait, elle, catégoriquement non, car il y voit un danger. Il y a là probablement, comme l'écrit Farid Gilani, un avertissement fraternel. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Amen.